voit quand les cris sont trop larges. Je suis calé dans le thème. 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 Depuis les bancs de l'école, je recherchais ma place. Calé dans le thème. Que résonne nos voix quand les cris sont trop larges. Je suis calé dans le thème. Calé dans le thème. Calé dans le thème. Calé dans le thème.
L'émission All I Wanna Do vous a été présentée par le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, la banque qui agit chaque jour pour le développement de l'économie locale.
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, merci de commencer cette semaine en notre compagnie. Séquence midi, c'est en direct du lundi au jeudi de 12h30 à 13h avec vos découvertes musicales, votre agenda et bien sûr vos invités. Aujourd'hui, en seconde partie d'émission, nous aurons également un reportage sur le projet de local de rétention administrative qui est prévu donc à Rouillé. On y reviendra en seconde partie d'émission. Mais d'abord, on parle inclusion numérique en compagnie d'Emmanuelle Vareille, qui est enseignante chercheuse au laboratoire Technique à l'Université de Poitiers. Bonjour.
Bonjour.
Et François Serret, qui est coordinateur mission inclusion numérique à la mairie de Poitiers. Bonjour.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être venus aujourd'hui pour nous présenter le projet Open. Alors peut-être nous expliquer en deux mots, avant qu'on détaille, ce que c'est que ce projet.
Alors, donc Open, c'est un observatoire permanent de l'exclusion numérique. Et c'est un projet donc, qui lie l'université et la municipalité de Poitiers autour du phénomène, de la compréhension du phénomène de l'exclusion numérique sous toutes ses formes, voilà, sur le territoire de Poitiers.
C'est très simple. Et alors, comment est venue l'idée de créer cet observatoire permanent ? C'est, j'imagine, ça part d'un constat.
Alors oui, en fait, la genèse du projet vient de des missions à la mairie, notamment la mission inclusion numérique, où une partie de mon travail consiste à animer un réseau des acteurs de l'inclusion numérique à Poitiers, parce que nous sommes nombreux, beaucoup d'associations, d'institutions. Donc mon rôle, c'est de coordonner, d'animer ce réseau, de pouvoir échanger sur nos pratiques, sur nos actions, les améliorer. Chaque fois que possible. Et ben, il se trouve que Open, c'est l'observatoire de l'inclusion numérique. C'est un projet dont on parle depuis assez longtemps à l'intérieur de ce réseau. Et il se trouve que l'université s'en est emparée avec une grande joie pour nous, puisque on n'avait pas les moyens de le mener à terme. Et lorsque l'université est venue nous voir en nous disant: on organise un observatoire, est-ce que vous souhaitez devenir notre partenaire ? On a signé avec les deux mains.
Et pourquoi l'université a décidé de s'intéresser à cette question-là ?
Ça fait quelques années qu'on s'y intéresse. En tout cas, moi, je m'y intéresse depuis quelques années. Pourquoi s'intéresser à cette question-là ? Parce que, notamment, ça fait suite aussi à un autre projet de recherche que nous avons mené et qui nous a amené à nous intéresser déjà à l'accès au numérique chez les populations en situation de migration. Dans le cadre de ce projet, nous nous sommes rapprochés de François, que je connaissais par ailleurs de par mes activités de bénévolat. Et dans les discussions, on a pu effectivement joindre nos deux envies, nos deux projets. D'un côté, moi, c'est quelque chose que j'avais observé et apprécié à travers le travail que font des collègues dans un groupe de recherche qui s'appelle Marsoin. Et j'avais très envie, effectivement, que quelque chose de ce type puisse germer ici à Poitiers. Et donc, il a suffi d'une toute petite étincelle apportée par François pour que cette envie prenne corps et finalement soit lancée officiellement il y a quelques jours, le 15 avril dernier.
Et pourquoi un observatoire permanent et pas juste une étude ponctuelle ou des études régulières?
Oh là là, mais c'est parce qu'il y a tellement à faire. Il y a tellement à faire. L'exclusion numérique, ça s'exprime sous des formes extrêmement contrastées. L'idée, c'est de sortir d'une vision binaire qui opposerait des exclus, des inclus du numérique, ceux qui auraient accès à des équipements, ceux qui n'y auraient pas accès, ceux qui seraient compétents, d'autres qui ne le seraient pas. Et il y a vraiment des formes très, très diverses chez des publics qui sont aussi très variés. Donc, il y a du travail pour des années et des années. Donc, l'idée, c'était de pérenniser quelque chose. Et là, on est sur un premier élan, mais qu'on entend bien poursuivre par la suite, répondre à des questions qui seront nécessairement très diverses.
Oui, alors moi, j'ajouterais que la notion de permanence est très importante pour nous parce que on n'a pas, nous, collectivités, on n'a pas les mêmes objectifs que l'université, et c'est normal. L'université a des objectifs de recherche. Quant à nous, les objectifs se rejoignent, bien sûr, mais ils sont différents. Et nous, se comporte aussi à travers ce projet, c'est un peu l'évaluation de la politique publique, se dire, bien voilà, nous, on travaille depuis quelques années sur ce projet, et bien, où on en est aujourd'hui, est-ce qu'on peut tirer un bilan, et la notion de permanent est importante parce que les actions qu'on a commencé à mener depuis maintenant déjà 2 mois devront être récurrentes et pour observer, il va falloir qu'on observe à plusieurs échéances, 2 ans, 3 ans, peut-être 4, je ne sais pas, c'est un peu trop tôt pour l'évoquer, mais aujourd'hui, la notion de permanente est importante pour nous tous.
D'ailleurs, vous avez recruté dans le cadre de cet observatoire.
Oui, tout à fait. Dans le cadre du partenariat avec l'université, on a proposé de recruter une stagiaire qui est en deuxième année de master à administration publique et qui, pendant 6 mois, va nous accompagner uniquement sur le projet Open. Son travail est dédié sur ce projet et elle va, entre autres, mener des enquêtes de terrain pour alimenter Open.
Alors, en quoi vont consister les enquêtes qui vont être menées?
C'est difficile à dire maintenant parce que le projet démarre tout juste. Les enquêtes, elles vont prendre des formes différentes selon les questionnements, selon les publics, selon les opportunités, notamment de terrain. Le réseau dont parle François, c'est un réseau qui facilite l'accès au terrain. Le travail que nous avons engagé déjà avec les structures partenaires de ce réseau lors de la journée du 15 avril nous a permis d'identifier des terrains à privilégier, d'entrer en contact avec des personnes qui vont être facilitatrices pour accéder à ce terrain qu'on va effectivement abordé de différentes façons, avec des méthodes très classiques des sciences sociales, des entretiens approfondis, de l'observation, y compris participante, de l'immersion, et puis quelque part aussi, dans la mesure de nos moyens, essayer de collecter quelques données qui sont un peu plus de nature un peu plus quantitative. Mais c'est quand même, l'idée, c'est quand même d'aller dans une description assez fine des difficultés, ce qui est situé auprès de publics qui vont être identifiés avec la collaboration de ces acteurs de l'inclusion numérique.
Peut-être que j'aurais dû commencer par ça, mais l'exclusion numérique, comment on pourrait la définir?
C'est assez compliqué. Disons que on est exclu du numérique. Alors, si je reprends effectivement la façon dont on considère habituellement cette exclusion numérique, on va déjà avoir tendance, comme je le disais tout à l'heure, à opposer qui ont accès au matériel, ceux qui n'ont pas accès au matériel. Déjà là, on peut supposer que certains ont des matériels qui sont performants, qui répondent à leurs besoins, et d'autres non. que les conditions d'accès à ces matériels ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et ça, c'est un élément à prendre en compte. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les modalités d'appropriation. C'est-à-dire que ces outils numériques, même s'ils sont de plus en plus intuitifs, formes qui, au contraire, ne le sont pas du tout, mais nécessitent quand même un minimum de compétences numériques qui sont en partie acquises théoriquement dans un parcours initial, mais qui manquent encore cruellement chez certains publics. On parle habituellement des seniors qui sont particulièrement en difficulté et qui en plus ont une certaine appréhension face à ces outils-là, ces boîtes noires-là qui leur font un petit peu peur. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des étudiants, par exemple, des jeunes plus généralement, qui sont aussi touchés par l'exclusion numérique sous d'autres formes. Donc c'est assez vaste. Donc l'exclusion numérique, pour résumer, je dirais que c'est on est exclu du numérique à partir du moment où on n'est pas en capacité de répondre à des situations qui nécessitent de mobiliser des outils numériques. Voilà.
Et est-ce que ça va se limiter à Poitiers ? Est-ce que l'objectif, c'est d'élargir ?
Alors, bien sûr, il faut rester modeste, surtout sur des projets ambitieux comme celui-ci. Mais dans un premier temps, on va contenir l'action à Poitiers. Il n'est pas exclu du tout que ça puisse s'étendre à Grand Poitiers. En tout état de cause, la méthodologie qui va être mise en œuvre pour ce projet sera réutilisable par d'autres collectivités, par d'autres universités qui souhaitent le faire, puisque dans le cadre de cette recherche, elle sera publiée. Les résultats seront publiés et chacun pourra se réapproprier les résultats. Donc, dans un premier temps, on reste sur le périmètre de Poitiers, celui qu'on connaît le mieux, et rien ne nous empêche de travailler sur un périmètre élargi comme Grand Poitiers, voire sur la Vienne. Aujourd'hui, des collègues travaillent dans chaque communauté de communes, au département. Nombreux sont les conseillers numériques ou les médiateurs numériques qui regardent ce projet avec attention et qui attendent un petit peu pour voir si, de leur côté, ils pourront se l'approprier.
C'est ça, c'est que ça s'intègre dans des actions plus globales et dans des politiques publiques à venir. L'objectif, c'est d'étudier pour pouvoir agir.
Exactement. Donc l'idée, c'est de pouvoir étudier ce qui existe. On parlait d'exclusion numérique. Comment on définit un exclu numérique ? Moi, je vais le résumer en deux points. Quelquun qui est exclu du numérique, c'est quelqu'un qui présente un problème lié au numérique. C'est-à-dire que dès lors que que le numérique me pose un problème, c'est que je commence à en être exclu, que ce soit du matériel ou que ce soit une compétence. Donc, l'idée, c'est de pouvoir
accompagner
les gens. Oui.
Pour la suite et mettre en place des actions. Alors, au niveau de l'université, elle s'implique même financièrement. Il y a plusieurs chercheurs, chercheuses qui vont être impliqués dans cette étude, dans cet observatoire.
Oui, on est pour l'instant un petit noyau dur d'une dizaine d'enseignants chercheurs issus de différentes disciplines et de 4 unités de recherche de l'Université de Poitiers. Avec un soutien, effectivement, alors financier, bien sûr, et c'est important, on en a besoin, un soutien important de l'Université de Poitiers dans le cadre du programme UP Square. On a été lauréat, donc, cette année de l'appel à projet interne émergence de recherche interdisciplinaire. Et au-delà de cette enveloppe budgétaire qui est importante, parce que nous en avons besoin pour mener à bien nos enquêtes de terrain, pour soutenir la communication, les formes de communication que l'on va pouvoir faire autour de ces actions de recherche, notamment par l'organisation d'un colloque international en juin 2026, qui va venir clôturer un peu cette première phase de recherche. Au-delà de ça, on a vraiment un soutien manifeste de l'Université de Poitiers, mais aussi très manifeste et enthousiaste des acteurs locaux, dès le début, qui nous soutiennent véritablement et avec lesquels on travaille très bien.
Et justement, comment va se faire cette collaboration entre les chercheurs, les associations, les médiateurs numériques des collectivités ?
Eh bien, c'est le réseau des acteurs qui va rentrer en en action pour cela. C'est-à-dire qu'on va prolonger nos missions sur le sujet. On va simplement intégrer à chaque fois une composante observatoire. Et comme le disait Emmanuel, on a senti un engouement très fort de chacune des structures. Le réseau est constitué de 42 structures institutionnelles ou associatives. Et on a eu la chance de les voir presque tous présentes le 15 avril pour démarrer les travaux. Et on a senti un engouement de chacun avec le soutien de nos collègues de Bordeaux, nos grands frères qui ont déjà fait leur observatoire depuis quelques années et qui nous ont donné quelques conseils sur le sujet. Donc nous, ça va s'inscrire naturellement dans nos missions, cet observatoire. Concrètement, on va l'intégrer à chacune de nos réunions qui sont organisées 2 à 3 fois par an et qui vont... l'observatoire va être un des sujets principaux de chacune de ces réunions.
Et moi, j'ajouterais bien que c'est aussi tout le sens de la recherche que d'être au service de la société. Et que moi, ça fait quelques années, effectivement, que je lis très étroitement mes activités de recherche et mes activités, par exemple, de bénévolat. Et que c'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré François Seret. Ça nous permet d'être au plus près, effectivement, des personnes. On ne fait pas de la recherche sur les personnes, mais de la recherche avec les personnes que l'on rencontre au quotidien, que l'on pourra rencontrer au quotidien, notamment par le biais donc, du réseau et des structures partenaires.
Et c'est vrai que ça s'inscrit totalement dans l'évolution de notre société avec l'ensemble des services qui devient maintenant numérique et qui risque d'exclure de plus en plus de personnes en réalité.
Oui, ça c'est une réalité. On peut déjà évoquer ne serait-ce que le phénomène de non-recours qui est lié effectivement, alors pas seulement à la dématérialisation des démarches en ligne qui existait auparavant, mais qui a forcément été amplifié. On estime, il y a des observatoires qui sont vraiment dédiés à l'étude du phénomène du non-recours. On estime par exemple qu'il y a un tiers des personnes qui seraient éligibles au RSA qui ne le perçoivent pas. Donc l'accès aux droits, c'est une question qui nous intéresse évidemment éminemment. D'ailleurs, nous avons une juriste dans notre équipe de recherche. C'est une question qui est essentielle. Le numérique peut faire obstacle à ce niveau-là et ça fait partie donc, des problématiques que nous allons regarder de près.
Oui, je compléterai par le fait que aujourd'hui, l'accès aux droits représente environ 30% des demandes des usagers qui se présentent aux permanences des médiateurs numériques, des conseillers numériques. Et 30%, ce n'est pas anodin. Et ça veut dire que face à la CAF, face à la CPAM, les termes deviennent de plus en plus compliqués, de plus en plus administratifs. Et parfois, même, ce n'est pas forcément le rapport au numérique, c'est simplement le rapport à l'administration qui pose un problème. Et quand on associe les deux, ça devient tellement compliqué qu'on préfère ne rien faire du tout et renoncer à ses droits, ce qui est évidemment dommage.
Et le fait de ne pas avoir une personne en face de soi pour pouvoir répondre à nos questions, de devoir tout faire en ligne, ça peut effectivement rebuter pas mal de monde. Un grand merci Emmanuel Vareil, donc enseignante-chercheuse au laboratoire Technée de l'Université de Poitiers, et François Seret, coordinateur de la mission Inclusion numérique à la mairie de Poitiers, d'être venu nous présenter ce projet Open, donc cet observatoire permanent de l'exclusion numérique. Et donc on aura bien sûr les résultats, j'imagine, d'ici l'an prochain, les premiers résultats. Merci bien à tous les deux.
On vous
recevra à nouveau avec plaisir. On continue la musique avec Ophée et ce titre Bol de nuages blancs.
Thank you. quoi tu penses ?
Plus ça.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais ?
Dans le cadre d'une unité d'enseignement d'ouverture proposée à l'Université de Poitiers et donc que une douzaine d'étudiants ont réalisé à Radio Pulsar, c'était leur engagement associatif du second semestre, eh bien Carla s'est rendue donc à une manifestation contre le projet de local de rétention administrative à Rouillé. Je vous propose d'écouter son reportage.
Si vous vous baladiez le 5 avril vers Rouillé, à une trentaine de minutes de Poitiers, vous avez peut-être aperçu un peloton d'une petite centaine de cyclistes se diriger vers le chantier du LRA. Ils avaient tous sorti sonnettes et slogans pour protester contre l'installation de ce local de rétention administrative. Cette mobilisation en vélo avait pour but de rendre visible ce local, ce qu'il s'y passera et d'où vient la décision de le créer. Mais d'abord, c'est quoi un LRA ? Un porte-parole nous l'explique.
C'est donc un local prévu pour une durée d'enfermement de 4 jours. C'est une sorte de sas transitoire avant d'être expulsé ou envoyé en centre de rétention administrative, CRA. Ces centres de rétention administrative sont des endroits plus gros qui permettent d'enfermer des personnes jusqu'à 90 jours.
Des organisations pour les droits des étrangers ont déjà relayé des témoignages sur les conditions de rétention très dures. Parmi ces associations, il y a la CIMAD qui faisait partie de la mobilisation à Rouillé.
En LRA, aucun droit fondamental n'est respecté. Pas de droit de visite, pas de téléphone, pas de médecin. Le fait de ne pas savoir de quoi sera fait le lendemain alimente un climat de tension et crée du stress, de l'angoisse pour des personnes enfermées. Dans ces lieux d'enfermement où règnent négligence, insalubrité et absence d'humanité.
Dans ces centres et ces locaux de rétention, les personnes sont retenues et non détenues. Leur enfermement ne repose sur aucune décision de justice, mais sur une décision administrative du préfet. Ce sont des femmes trans, des hommes trans, vieilles, jeunes, à Mayotte ce sont même des enfants, des familles, des travailleurs, des étudiantes, venues de tous les continents, ayant pour seule raison d'enfermement le fait de ne pas avoir de papier en règle.
Dans la Vienne, la future installation de ce local est connue, et un collectif s'est créé pour faire parler de ce local. On a pu tendre notre micro à des manifestantes.
L'idée en fait c'est de protester contre l'ouverture du LRA et en fait c'est des lieux qui sont totalement inhumains et du coup on veut dire au gouvernement et à la préfecture qu'on n'est pas d'accord.
Je pense que c'est une convergence des luttes quoi. On est différents collectifs ou même individuels à se battre un peu quotidiennement et du coup c'est cool des fois de se rassembler pour partager ça quoi, ces espaces-là.
Le collectif contre ce LRA est composé d'habitants, d'habitantes, de membres d'organisations politiques et d'associations comme la CIMAD. On a pu avoir un appel téléphonique avec un des militants qui était présent pendant la mobilisation.
La CIMAD défend la liberté de circulation et d'installation des personnes étrangères. On nous reproche parfois que c'est une position utopique, irréaliste, etc. À vrai dire, quand on voit la réalité des mouvements migratoires dans le monde et en fait, l'impossibilité de les empêcher, et l'échec total de toutes les politiques répressives pour empêcher ces mouvements migratoires, on se demande qu'est-ce qui est le plus utopique en fait.
La mobilisation, quant à elle, s'est terminée en milieu d'après-midi, après le déploiement d'une banderole avec le message suivant.
Non au LRA de Rouillé, ni ici ni ailleurs.
Bravo.
Voilà.
Bravo.
Demain, dans Séquence Midi, nous recevrons l'Institut P' de l'Université de Poitiers pour Dragon 3. C'est un drone sous-marin capable de nager comme un serpent dans l'eau. Et on recevra aussi le président du Conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Vienne par rapport au projet de régulation de l'installation des médecins et de leur mobilisation de la semaine dernière. Mais tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. Par Rachel.
Bonjour à toutes et à tous, voici ma sélection d'événements à faire aujourd'hui à Poitiers ou ses alentours. Tout d'abord, retrouvez au TAP Castille le ciné-débat avec la projection du film Battement d'Est. Europe Direct et la compagnie Luciole vous donnent rendez-vous pour découvrir ce film documentaire qui bouscule les stéréotypes sur les Balkans et met en lumière des artistes engagés. La projection est suivie d'un échange exclusif avec les réalisatrices et un quiz sur les pays de l'Est. La séance commence à 20h. Puis l'exposition Renaissance de Vanessa Vallée, une jeune artiste autodidacte qui en 2022 s'est tournée vers le dessin, notamment pour dessiner des félins. Cette première exposition est pour elle l'occasion de se dépasser et de vivre un nouveau départ. Elle se déroule au Centre communal d'action sociale sur les horaires de l'établissement. Maintenant, direction l'exposition Rouillé, 8 mai 1945, de l'occupation à la libération. À l'occasion du 80e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, se tient une exposition portant sur les contraintes de la vie à Rouillé sous l'occupation et sur les manifestations de joie de la liberté retrouvée. Retrouvez également la diffusion de films inédits et des conférences. Ça se déroule jusqu'au 7 mai par l'association pour un développement local sur les horaires de l'établissement également. Et enfin, retrouvez la pièce « Jeunes qui veillent ». Tous les séparent se fêtent au même endroit au même moment. La pièce se situe dans un outre-mer fictif où la dangerosité est incarnée tant par les gangs que les militaires. C'est dans cet ailleurs laissé pour compte par la métropole que Mathilda s'est liée d'amitié avec Yann. Une nuit, les deux adolescents se retrouvent pour tenter de renouer avec le passé en s'essayant en spiritisme. Ça se déroule au Nouveau Théâtre à Châtellerault et ça commence à 19h30.
Merci beaucoup Rachel pour toutes ces recommandations du jour. Et Battement d'Est, c'est une réalisation, un documentaire d'une de nos collègues, Julia Vandal. Je vous conseille d'aller le découvrir ce soir. Cet après-midi, sur Pulsar, à 18h, c'est And the Tap Dreams. À 19h, c'est X-Bull, la bande dessinée. À 20h, c'est Punks. Et de 21h à 23h, c'est Scrogneugneux. C'était Jonathan à la réalisation technique. Merci à lui. On se quitte avec Griff, c'est un duo féministe. Un peu punk, effectivement, et engagé en tout cas. Voici le titre Maneki Neko Girl et ils ont été retenus pour le chantier des Franco.
3, 4.
Elle a des tatouages, c'est Maneki Neko Girl. Elle en a partout, c'est Maneki Neko Girl. Je l'aime un peu beaucoup et je l'embrasse partout. Elle a des tatouages, c'est Maneki Neko Girl. Elle en a partout, c'est Maneki Neko Girl. Je l'aime un peu, beaucoup, et je la baise tout doux.
Un portrait de Johnny Hallyday, tatoué sur le mollet pour ne pas l'oublier.
R.I.P.
Le prénom Merlin tatoué sous le sein parce que son ex est un gourou.
Je suis pas jalouse.
Sur le majeur gauche, le symbole gémeaux, c'est con car elle est verso.
Mais elle s'en fout.
Dans le dos, qu'il crut, c'est pas beau.
C'est pas le but.
Un plateau de jeu de go.
Ça peut toujours servir.
Elle a des tatouages, c'est Maneki Neko Girl. Elle en a partout, c'est Maneki Neko Girl. Je l'aime un peu, beaucoup. Et je l'embrasse partout. Elle a des tatouages, c'est Maneki Neko Girl. Elle en a partout, c'est Maneki Neko Girl. Je l'aime un peu, beaucoup. Et je la baise tout doux.
Miaou, miaou, ou, juste à côté d'un loup. Et une girafe qui mange des choux.
Car son tatoueur est fou.
Un 4 à l'envers à côté d'une chimère parce que ça lui rappelle sa mère. Carpe diem tatoué sous les aisselles parce qu'on n'a qu'une seule vie. Putain, elle me l'a dit. La tête de Booba sur le corps de Bouddha, le tout dans le creux de son cou.
Quoi ?
Elle a des tatouages, c'est Maneki Neko Girl. Elle en a partout. C'est Maneki Neko Girl, je l'aime un peu beaucoup et je l'embrasse partout. Elle a des tatouages, c'est Maneki Neko Girl. Elle en a partout. C'est Maneki Neko Girl, je l'aime un peu beaucoup et je la baise tout doux.
Une citation sur le temps qui passe.
Tatouée sur son front parce qu'elle a plus de place.
Son code carte bleue tatoué sous les cheveux.
Son numéro de sécu tatoué sur son.
Elle a des tatouages, c'est Maneki Neko Girl. Elle en a partout, c'est Maneki Neko Girl. Je l'aime un peu, beaucoup. Et je l'embrasse partout. Elle a des tatouages, c'est Maneki Neko Girl. Elle en a partout, c'est Maneki Neko Girl. Je l'aime un peu, beaucoup.
À quoi tu penses ?
Pulsar.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais ?